RFI midi à Paris, 10h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonjour à toutes et à tous. La colère de Netanyahou, le Premier ministre israélien, après les propos d'Emmanuel Macron, le président français, a appelé à ne plus livrer certaines armes à Israël, celles qu'ils sont utilisées à Gaza. Un an après les attaques du 7 octobre en Israël, l'ancien Premier ministre Ehud Barak accuse l'actuel chef du gouvernement Benjamin Netanyahou d'avoir une part de responsabilité dans cette tragédie, vous l'entendrez. Élection municipale aujourd'hui au Brésil, un scrutin à valeur de test pour le président Lula. Il y a 4 ans, son parti avait perdu la moitié des mairies qu'il détenait. Il faut que la honte change de camp, c'était le mot d'ordre hier de la marche de soutien à Gisèle Pelicot, cette femme victime des viols de son mari et d'autres hommes alors qu'elle était droguée. L'affaire est jugée en ce moment à Avignon, dans le sud de la France. Emmanuel Macron se prononce pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, des armes qui sont utilisées à Gaza. Je pense que ceux qui fournissent ces armes ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Déclaration du président français en marge du sommet de la francophonie qui s'est achevé hier à Paris. La France, on le rappelle, ne livre pas d'armes à Israël, mais ses propos visent les États-Unis qui appuient militairement l'État hébreu. Et la réponse israélienne ne s'est pas fait attendre, Michel Paul.
C'est une déclaration du président français perçue en Israël comme visant essentiellement les États-Unis, mais elle provoque en tout cas un échange plutôt acerbe entre les deux pays, frisant l'incident diplomatique et en tout cas la colère de Benjamin Netanyahou.
J'ai un message pour le président Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur 7 fronts en même temps contre les ennemis de la civilisation. Et alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement à ses côtés. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes contre Israël. Honte à eux.
Shame on them. Une honte qui perdurera longtemps après la victoire d'Israël, ajoutait le Premier ministre israélien, visiblement hors de lui, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. De son côté, l'Élysée a publié dans la soirée une mise au point assurant que la France est l'ami indéfectible d'Israël et a déploré les mots excessifs de Benjamin Netanyahou. Curieusement, pas d'autres réactions ce matin à cet échange peu diplomatique, mais on peut rappeler que les États-Unis sont traditionnellement le plus important fournisseur d'armes à Israël. Le mois dernier, la Grande-Bretagne a annoncé de son côté qu'elle cessait de fournir certains types d'armements à l'armée israélienne. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et ce matin, l'armée israélienne dit encercler Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Elle estime que le Hamas y reconstruit ses capacités malgré des mois de combats et de frappes aériennes. Dans le centre de l'enclave palestinienne, au moins 24 personnes sont mortes, 93 autres blessées dans une frappe sur une mosquée qui abritait des déplacés. La nuit dernière, l'armée israélienne a aussi mené de violents bombardements aériens sur la banlieue sud de Beyrouth au Liban. Une trentaine de frappes dans plusieurs secteurs de ce fief du Hezbollah. Une boule de feu s'est élevée dans la nuit, illuminant la capitale. Des dizaines de personnes ont dû fuir à pied ou à moto le quartier de Sabra, alors que des explosions retentissaient derrière elles. Selon les autorités, 23 personnes sont mortes dans les frappes israéliennes hier au Liban. Les autorités qui annoncent par ailleurs que la rentrée scolaire est repoussée au 4 novembre. L'état d'alerte déclenché en Israël à la veille du premier anniversaire de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Le mouvement lançait une attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Près de 1200 personnes tuées, une hécatombe. Un anniversaire tragique qui marque également le début de la guerre à Gaza et le carnage qui est commis par l'armée israélienne. Près de 42 000 Palestiniens sont morts. Pour l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, le Hamas est 100% responsable des massacres du 7 octobre. Mais le Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou, endosse sa part de responsabilité dans l'échec que représente le 7 octobre pour les Israéliens.
C'est un échec de nos services de renseignement. C'est un échec de nos forces de défense et il est certain que c'est un échec stratégique majeur et un échec du leadership au niveau gouvernemental. Nous devons nous assurer, Israël doit s'assurer que le Hamas ne régnera plus sur Gaza et ne nous menacera plus jamais. À l'époque, Netanyahou a senti qu'il y avait un intérêt avec le Hamas. Et il l'a même déclaré. Quiconque souhaite bloquer l'émergence d'un État palestinien doit soutenir ma politique de renforcement du Hamas et d'affaiblissement de l'autorité palestinienne. Et il était prêt à aller très loin. Il a encouragé les Qatariens à transférer 1,5 milliard de dollars au Hamas durant 5 ans.
Les Qataris to pay 1.5 million dollars over 5 years.
L'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak au micro de Sami Boukhelifa. Plus de 10 millions de Tunisiens attendus aux urnes aujourd'hui pour élire leur président. Les électeurs qui daigneront se déplacer n'auront le choix qu'entre trois noms. Le président Kais Saied qui brigue un second mandat dans un scrutin qui semble joué d'avance. Face à lui, seuls deux candidats. Ayachi Zamel, homme d'affaires libéral et ancien député. Il est soutenu par une partie de l'opposition qui appelle à voter en masse pour lui. Et puis à côté, il y a Zoher Marzaoui, ancien professeur de mathématiques et ancien député pour de nombreux Tunisiens. C'est un candidat fictif qui sert d'alibi démocratique au président. Au Brésil, le premier tour des élections municipales se déroule aujourd'hui. Un scrutin à valeur de test pour le président Lula. Il y a 4 ans, son parti avait perdu la moitié des mairies qu'il détenait. À Sao Paulo, la capitale économique du pays, 3 candidats se trouvent dans un mouchoir de poche. Le sortant Ricardo Nunes, soutenu par l'ancien président Jair Bolsonaro, le candidat de gauche Guilherme Boulos, soutenu par le président Lula, et un candidat anti-système, Pablo Marçal, qui a réussi à brouiller les cartes et semble prêt à tout pour parvenir au second tour. À Sao Paulo, Martin Bernard.
Lula est venu prêter main forte au candidat de gauche à la veille du scrutin. Ils ont défilé ensemble au cœur de Sao Paulo. Guilherme Boulos, du parti Socialisme et Liberté, ne doit pas seulement affronter le maire sortant, il doit aussi résister aux attaques de Pablo Marçal, un jeune homme d'affaires ambitieux, très agressif. Il accuse le maire sortant d'avoir battu sa femme et traite son adversaire de gauche de toxicomane. Lula est venu défendre Guilherme Boulos.
Boulos, c'est la synthèse d'un être humain qui a appris à prendre soin du peuple. Et c'est ça qu'il faut pour Sao Paulo. C'est pas possible de faire campagne avec quelqu'un qui n'arrête pas de faire des provocations, qui n'arrête pas de mentir, qui n'arrête pas d'offenser les gens.
La campagne électorale a été marquée par plusieurs épisodes de violence et d'agressions physiques entre les candidats et leurs équipes. Issu d'un parti minuscule, Pablo Marçal compte sur sa popularité sur les réseaux sociaux pour bousculer le monde politique traditionnel.
Je leur mets tous la pâtée sur les réseaux sociaux. Ni leur chef de marketing, ni leur mère, ni leur père, ni Lula. Personne ne va réussir à arrêter cette vague qui va tous leur tomber dessus.
La stratégie a porté ses fruits puisque Pablo Marçal est parvenu à attirer une partie des sympathisants bolsonaristes. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
En France, cette marche hier en soutien à Gisèle Pellicot à Mazan, dans le sud du pays. C'est dans cette ville qu'elle a été droguée par son mari qui l'a violée et l'a fait violer par des dizaines d'hommes. Une marche avec un mot d'ordre. Il faut que la honte change de camp. Une phrase prononcée par Gisèle Pellicot à propos de ses agresseurs. Ils sont 51 à comparaître jusqu'en décembre au tribunal d'Avignon. Cette marche était organisée par l'association mazanaise ISO Faculté qui vient en aide aux victimes de violences grâce à l'équitation. Reportage de Tanita Fallet.
Un hommage en chanson après plus de 2 km de marche. Au centre équestre de Mazan, les femmes aidées par l'association ISO Faculté témoignent devant près de 350 personnes.
Ça me touche énormément en fait de voir qu'il y ait autant de monde qui soutient Gisèle et qui me soutient par la même occasion en fait. Parce que j'ai vécu des choses un peu similaires à ce qu'elle a eu.
Et toutes se retrouvant, Gisèle Pellicot.
C'est vraiment cette affaire-là qui leur a permis d'avoir la force.
Chloé Sarah a co-organisé la marche.
La force de témoigner, la force d'être en tête de cortège, à visage découvert.
Dans le public, l'émotion des femmes s'essuie des yeux, touchées par les témoignages. Comme Anne.
Je tenais à être là parce que c'est important de pouvoir la soutenir et faire voir qu'on est solidaire avec elle. Voilà.
Est-ce que cette phrase, il faut que la honte change de camp, ça vous parle ?
Oui, tout à fait. Et au contraire, il ne faut surtout pas avoir honte et bien marcher la tête droite.
Parmi les centaines de personnes présentes, certaines se rendent tous les jours au tribunal d'Avignon pour assister au procès et espèrent que ce soutien fasse définitivement changer la honte de camp.
Un reportage signé Tanita Fallet. Un mot de tennis et le russe Daniil Medvedev, 5e mondial, a renversé l'italien Matteo Arnaldi en 3 sets, 5-7,